Alors Mathias Melekus, bonjour. Donc vous êtes le réalisateur de Mine de rien, film qui sort le 4 mars chez nous. Est-ce qu'on peut dire que c'est une fable ou un conte de fées des temps modernes ?
Un conte de fées, moi je parle de conte social plutôt.
Ouais.
J'aime bien l'idée de conte, voilà. Donc c'est un peu romancé. Voilà, j'ai voulu. Il y a quelques anachronismes dans le film, j'y tiens beaucoup. On est très ancré dans les années 60, fin 70, début 80. Et même si l'action se passe aujourd'hui, hein, dans le décor, dans les costumes, tout ça. Donc il y a un petit côté. Ah ben oui, bonjour monsieur. Il y a un petit côté conte social plus que conte de fées.
Alors, on est en pleine période de ras-le-bol, de mouvement des gilets jaunes, etc., d'une prise de conscience de la population. Et même dans le cinéma, ça se ressent avec des films, notamment comme Place des Victoires, Rebelles. Mais finalement, vous n'êtes, c'est pas une question de mode, parce qu'on peut dire que 6 ans, on avait de la suite dans les idées, là.
Oui, c'est même plus que 6 ans. Hein. L'idée, elle date de 10 ans. Alors, voilà. La première fois que je vois Philippe Rebois, avec qui j'ai coécrit le film, c'était en 2009. Donc effectivement, on tombe pile poil entre guillemets dans l'actualité, mais enfin les crises sociales, j'ai pas l'impression que ça avait commencé l'année dernière non plus. Donc,
est-ce que vous avez senti cette évolution au fil des années, certaines similitudes dans la situation réelle et au niveau du cinéma en tout cas.
Non, moi j'ai l'impression qu'on est en crise depuis que je suis né en politique, c'est-à-dire depuis combien de temps, presque 35 ans. J'ai jamais connu un moment entre guillemets, où le pays était apaisé. Non, on est en crise permanente et effectivement, il y a une forme paroxystique en ce moment. Oui, on est de plus en plus en crise. Oui.
Alors, donc c'est, comme on l'a dit, un projet qui vous tenait à cœur. Est-ce qu'il y a eu des moments un peu d'abattement ou est-ce que vraiment vous êtes dur comme fer à croire que...
Je me suis vraiment beaucoup accroché à cette histoire, à ce projet, à l'idée qu'un jour ça aboutirait. Pour écrire, je me jetais dans l'eau froide le matin. Là, j'ai une espèce de grand bac d'eau froide dehors chez moi pour me maintenir éveillé, pour me réveiller, pour travailler le matin, etc. Je me suis vraiment accroché. Par contre, c'est vrai que je m'étais dit je ne dépasse pas 2018. Je tournerai en 2018 ou j'arrêterai. Bon, plus le 2019 approchait, plus je me disais, bon, ben, peut-être je rajoute encore un an. Mais il fallait à un moment, cette histoire, elle me hantait, elle me bouffait ma vie. Donc il fallait aussi, soit elle était tournée, tant mieux, c'était magnifique, soit je l'abandonnais, je la laissais au fond d'un tiroir, parce que voilà, parce qu'on ne peut pas non plus traîner toute sa vie un projet sans qu'il aboutisse.
Quel a été le coup de pouce qui a permis finalement de faire aboutir les choses, la rencontre avec Arnaud.
À l'époque, là, moi, je l'avais rencontré il y a 5 ans. J'avais pas réussi à monter avec Arnaud. Il n'était pas assez connu. Là, il était plus connu. Il était toujours d'accord pour faire le film, mais quand même, c'est les financements. Voilà, on est allé sonner à beaucoup de portes et beaucoup de financiers, beaucoup de chaînes hertziennes ont refusé. Non, et jusqu'à ce qu'on tombe sur Orange Studio. Et ils ont aimé le scénario. Et j'ai rencontré David Kessler. David Kessler avait aussi aimé le scénario, mais il avait des doutes sur moi. C'est vrai que le maillon faible, entre guillemets, dans tout ça, peut-être c'était moi. C'était me donner les clés du camion, alors que je n'avais jamais fait de court-métrage, jamais de long. Voilà, c'était...
Un peu comme Stallone et Rocky, quoi, finalement.
Oui, il fallait d'un seul coup vous croire en moi. Ben, Rocky, lui, il a joué encore dedans. Moi, je ne jouais pas dedans. Hein. Je demandais juste qu'on me laisse réaliser. Et j'ai eu un rendez-vous avec David Kessler, qui est malheureusement décédé en janvier dernier. Et c'est cette rencontre, ce rendez-vous-là, un peu, où je lui ai dit que voilà, il trouverait sûrement un meilleur technicien que moi, mais il ne trouverait pas quelqu'un de plus légitime que moi. Et parce que j'étais le plus légitime pour faire ce film, je serais aussi le meilleur réalisateur. Et il a trouvé le...
Interpellant.
Il a trouvé l'argumentation... comment dirais-je, satisfaisante. Et puis je lui dis aussi que je serai l'homme d'un seul film. Ça, ça lui a beaucoup plu. C'était un peu romanesque. Je serai l'homme d'un seul film.
Alors, vous avez tourné donc à Lens fin 2018, donc région que vous connaissez. Vous auriez pu éventuellement tourner en Belgique. Vous avez envisagé éventuellement. Parce que alors, c'est vrai que le sujet nous interpelle. Hein.
Oui, alors, je suis Charleroi. Effectivement, on m'a dit, effectivement, il y a des mines en Belgique. Voilà, à un moment, pour des raisons économiques, les raisons affectives, moi, je ne me voyais pas tourner ailleurs que là où j'étais né. Voilà, je suis né à Lens, j'ai tourné à Lens. Voilà. Je sais que vous avez des mines, je sais que aussi vous êtes une terre de charbon, mais tout aurait été différent en Belgique. J'aurais pas retrouvé mes petits, quoi. Les corons sont différents, les terris sont différents, même l'architecture des chevalets est différente. Donc non, je pense que je n'aurais pas pu tourner en Belgique.
Alors, vous parliez justement de Philippe Rebaud. Comment se fait-il qu'il soit impliqué à ce stade, puisque finalement, il est co-scénariste et co-adaptateur avec vous? Il a la fibre sociale. C'est vrai que dans les rôles qu'il tient, il y en a quand même qui nous parlent aussi. Mais pourquoi celui-ci, en tout cas?
Mais Philippe Rebaud, c'est avant tout un ami. C'est un ami de 20 ans. Donc, à l'époque, il n'était pas comédien. Quand on a commencé à travailler sur le film, il n'était pas comédien, il était scénariste. Donc moi, je me suis adressé d'abord aux copains scénaristes en disant « Aide-moi à écrire cette histoire ». Et au fil des commandes, sur 10 ans, Philippe, il commence à émerger au niveau du cinéma il y a 5 ans seulement, hein, avec d'abord un court-métrage, « Donde está Kim Basinger », qui devient un long-métrage, « Mariage à Mendoza ». Et puis ensuite, il s'est mis à tourner beaucoup, jusqu'à « L'amour flou », où il est devenu réalisateur avec Roman Boringer d'un film. Voilà, Philippe, il grandit comme acteur avec l'histoire du film. Donc, et naturellement, à un moment, je lui ai dit, bah, toi, tu pourrais faire Dilelo, tu serais parfait dans Dilelo.
Mais voilà. C'était pas prévu au départ.
Mais non.
Ça, c'est fou, ça.
Ah, mais non, bien sûr que non. Mais au départ, au départ, il était scénariste.
Et Arnaud Ducret, comment rentre-t-il dans cette aventure?
À un moment, quand vous avez un scénario, je pense que c'est la version 4 ou la version 5. Non, je pense que la version 4. Du scénario, on en a fait 10, hein. On était jusqu'à la V10. Donc la version 4, je m'en vais sous le bras, je m'en vais voir Arnaud sur la recommandation de mon producteur. C'est un comédien que j'aimais beaucoup, je l'ai rencontré, je lui ai proposé le film, il a accepté, mais malheureusement, je n'ai pas pu monter sur son nom, il n'était pas assez bankable, ça n'a pas pu se faire à ce moment-là. Et puis on est reparti dans l'écriture, on est reparti dans les négociations, etc. Enfin, c'est un long chemin,
long, hein.
C'est
long. Rufus, alors là, franchement, c'est le symbole de la contestation dans le cinéma français. Là aussi, c'est un clin d'œil ou vraiment ce sont des rencontres?
Moi, j'aime beaucoup Rufus. J'aime le comédien Rufus, j'aime l'homme Rufus. Donc, naturellement, je me suis tourné vers lui. Je ne me suis pas dit, tiens, pour Roger Morel, j'avais pas de shortlist. J'avais pas 5 noms, j'avais pas 2 noms, j'avais un nom, c'était Rufus. Mais il a accepté, donc voilà, j'étais ravi. Et effectivement, il est magique.
C'est déjà un symbole en soi.
Oui, hein, oui. Voilà, moi, je trouve qu'il est formidable en communiste, en cégétiste aguerri.
La musique. Alors là, bon, importance quand même. Vous avez été choisir des chansons de l'album de Christian Auriol. Donc, c'est La Mine, Cri et Chant. Je pensais que c'était beaucoup plus vieux que ça. Ça date des années 80, finalement.
Oui, c'est pas très vieux. Hein. Mais par contre, les chansons sont plus vieilles. Hein. Ouais. Il y a une chanson de la grève de Trieux, c'est 67 si je m'abuse, là c'est une mine de fer, à l'ombre des terres, la chanson qui est dans le film, je pense qu'elle date même des années 50 ou 60, donc, voilà, l'album est des années 80, mais les chansons sont plus vieilles. Moi c'est un album que mon père avait à la maison, et j'ai appris là récemment, mais qu'il avait été à l'origine aussi, avec un ami à lui, de la création de cet album. Oh. Ouais. Alors ça, pour le coup, je ne savais pas du tout. Je l'ai appris de la part de Christian Auriol, que j'ai rencontré il y a 3 semaines. Voilà, donc ça c'est un album qu'écoutez en boucle.
Il n'y a pas de hasard.
Il y a beaucoup de choses comme ça. Il y a beaucoup de signes dans ce film, des clins d'œil qui m'apparaissent un peu. Je trouve que c'est un très bel... C'est une boucle entre mon grand-père, mon père et moi. Voilà, bref, là pour revenir à la musique, naturellement, quand j'ai écrit le scénario, ben j'avais un casque et j'écoutais cet album en boucle. Et donc après aussi, quand il s'agit de trouver des chansons, ben je me suis dit, ben, elles sont toutes trouvées, elles sont là.
Mathieu Gonnet, en fait, j'ai constaté qu'il avait travaillé sur Plan de table, oui, où vous étiez aussi, oui, d'ailleurs.
Voilà, c'est ça.
C'est là que vous vous êtes rencontrés?
Non, on ne s'était pas rencontrés à l'époque, mais j'avais trouvé la musique sur Plan de table très, très belle. Donc naturellement, c'est pareil aussi. Là, ça se fait assez simplement. J'ai pas rencontré beaucoup de compositeurs. J'ai rencontré lui et voilà, tout de suite le courant est passé entre nous. J'aimais ce qu'il faisait et ça a été magnifique. Pour le coup, je trouve qu'il a magnifié certaines scènes. Il a été extrêmement créatif.
Daniel Guichard, ah, quand même. Je sais pas, on aurait pu penser à Bachelet, non?
Alors, effectivement, on aurait pu penser à Bachelet. J'aurais pu mettre une chanson de Bachelet à la fin. Pour moi, bizarrement, Daniel Guichard a toujours été associé au Nord.
Ah ouais.
Ouais. Alors, pourtant, je sais bien que dans cette chanson, on parle d'autobus de banlieue. Mais pour moi, le par-dessus râpé, c'est les images des hommes du Nord. Bon, alors, par-dessus, ouais, je sais pas. Oui, c'est les années 80, hein, tout le monde avait des par-dessus. Et cette chanson, moi, elle me file la chair de poule à chaque fois que je l'écoute. C'est l'une de mes chansons préférées. Et naturellement, je l'ai inscrite dans le scénario. Enfin, c'était écrit que mes personnages chantaient la chanson sur le manège, chantaient la chanson Mon vieux. Et je suis allé voir, enfin, la production était allée voir Daniel Guichard et il a accepté de céder des droits vraiment enfin, pour pas
C'est pas
grand-chose.
toujours
Il a
évident
été.
ça, hein?
Ben non, non, parce
On
que.
peut partir sur une idée et puis finalement,
Voilà, et les
hein?
corons, on ne l'a pas fait parce que justement les droits étaient trop chers.
Donc on peut rappeler quand même que votre film, mine de rien, sort le 4 mars. Mathias, un grand merci.
Merci à vous.